Bonjour. Aujourd'hui, nous offrons une section de textes tirés des médias suivants. Québec Science et Science Humaine. Au programme, Éducation des enfants, outiller les parents vulnérables. Et Ukraine, le retour de l'histoire. Bonne écoute.
Éducation des enfants, outiller les parents vulnérables. Un texte de Marine Cornu, paru le 23 février 2023 dans le magazine Québec Science. Les parents qui se questionnent sur la parentalité positive et ses multiples facettes sont le plus souvent des parents aimants, favorisés économiquement et conscients des risques liés à la maltraitance. Comment outiller ceux qui ont vraiment besoin de soutien? Tout le monde a besoin d'être guidé, mais pour les familles vulnérables sur le plan social, le niveau de base et les acquis ne sont pas les mêmes, explique Georges Tarabulsi de l'Université Laval. Ce sont ces parents-là qui ont le plus besoin d'être outillés, clament d'une seule voix tous les experts interrogés. Plusieurs programmes visant à enseigner aux familles à risque certaines habiletés parentales ont été étudiés en long et en large dans le monde. Tous montrent, à des degrés variables, leur efficacité en matière de prévention de la maltraitance et d'amélioration des comportements des petits. Ils reposent tous sur une approche bienveillante. Les différences concernant surtout la structuration des ateliers de formation et la durée. Parmi les programmes les plus connus se trouve le triple P, Positive Parenting Program, et ses années incroyables. Au Québec, les deux ont été implantés dans divers contextes de recherche. Marie-Hélène Gagné, spécialiste de la question des violences familiales à l'Université Laval, a évalué le triple P, entre autres dans la capitale nationale, où il est déployé sous la responsabilité du CIUS. Le programme enseigne 17 stratégies qui vont de l'écoute de l'enfant jusqu'au time-out, mise à l'écart. Le parent constitue son propre portfolio de stratégies pour établir une relation harmonieuse avec son enfant, indique la chercheuse qui s'apprête à publier les résultats de son étude portant sur 291 parents. Bilan, le triple P est plus efficace que l'offre de services classiques, glisse-t-elle. À Sherbrooke, Marie-Josée Letarte s'intéresse au programme « Ces années incroyables », initialement mis sur pied à la fin des années 1970 aux États-Unis pour les enfants ayant un trouble du comportement. L'approche se décline en ateliers hebdomadaires, qui s'étalent sur 14 à 20 semaines selon les clientèles. On insiste sur la relation parent-enfant. On passe 5 semaines à parler de l'importance de jouer avec l'enfant, de l'écouter, d'être engagé auprès de lui, de faire preuve d'empathie, note-t-elle. De son côté, Georges Tarabulsi a amorcé des travaux pour mettre en place un programme national de soutien à la parentalité, fait au Québec, pour s'affranchir des programmes existants, difficiles à modifier. En attendant, comment faire pour que les stratégies qui fonctionnent soient présentées aux familles? C'est un défi d'appropriation de la part des intervenants. Les travailleurs sociaux qui sortent de l'école ont à peine eu un cours d'introduction au développement de l'enfant, déplore-t-il. Ils ont une charge de cas beaucoup trop élevée. Pourtant, mieux vaut prévenir que guérir. Que faire pour que le lave-vaisselle soit vidé? Le chantage, les récompenses, les négociations et l'isolement temporaire sont perçus par les idéologues de la bienveillance comme des violences éducatives ordinaires. En pratique, rares sont les parents qui n'en font jamais usage. Un enfant n'a pas toujours la motivation pour vider le lave-vaisselle ou ranger. Pour qu'il développe une motivation intrinsèque, il faut d'abord qu'il essaie le comportement et voit qu'il est capable de le faire. On peut donc utiliser des récompenses, mais pas à long terme. Souvent, les félicitations et les encouragements suffisent, affirme Marie-Josée Letarte, experte en psychoéducation à l'Université de Sherbrooke. Le point qui cristallise toutes les tensions est toutefois l'usage du « time-out », préconisé par Caroline Goldman dans son livre « File dans ta chambre ». C'est pourtant une technique largement étudiée dans les programmes d'habilité parentale, souligne Mélanie Woodfield, chercheuse en psychologie à l'Université d'Auckland en Nouvelle-Zélande, dans une synthèse sur le sujet publiée début 2022. Des revues étendues sur le sujet indiquent que le « time-out » est à la fois sécuritaire et efficace quand il est utilisé de façon prévisible, non fréquente et calmement. Attention! Certains parents sont toujours dans le « time-out » et ça ne fonctionne pas. Il faut que les bases empathiques et bienveillantes soient solides, souligne Marie-Josée Letarte. La punition n'exclut pas l'empathie. On peut parler des émotions vécues une fois le calme retrouvé. Mélanie Woodfield affirme que le « time in » réconfort et le « time out » ont tous deux leur place. Ainsi, quand l'enfant vit une déception intense, de la colère ou de la frustration sans agressivité ni comportement destructeur, s'asseoir à côté de lui et décrire son expérience peut l'aider à se développer, écrit-elle. Dans le cas où l'enfant refuse d'accomplir une action, s'habiller, se brosser les dents, alouette, le neuropsychologue Michael Pottegal souligne que l'indifférence ou le retrait sont contre-productifs. La tâche n'en serait pas plus accomplie. Dans ce cas, je proposais à ma fille de poser mes mains sur les siennes pour l'aider à faire la tâche en question. Les enfants ont horreur de perdre leur autonomie. Ça fonctionnait très bien. À bon entendeur. C'était « Éducation des enfants, outiller les parents vulnérables », un texte de Marine Corniou, paru le 23 février 2023 dans le magazine Québec Science.
Ukraine, le retour de l'histoire. Un texte de Jean-Marie Potier, paru en avril 2023 dans le numéro 357 du magazine Sciences humaines. Serhiy Plokhy. Ukraine, le retour de l'histoire. Un an après le début de l'invasion russe, l'historien ukraino-américain Serhiy Plokhy raconte l'histoire millénaire des relations entre Moscou et Kiev. Et décèle dans la guerre un prolongement de l'effondrement de l'Union soviétique. À Harvard, où il enseigne depuis 2007, l'historien ukraino-américain Serhiy Plokhy occupe une chaire au nom de Mykhailo Ourechevski, 1866-1934. Auteur d'une synthèse majeure de l'histoire de son pays, ce prestigieux devancier fut aussi président de la République populaire ukrainienne en 1917 et 1918, preuve que le récit historique a joué un grand rôle dans le projet national ukrainien. Auteur depuis 20 ans de nombreux ouvrages sur la région, Serhiy Plokhy a connu sa première traduction française « Aux portes de l'Europe, histoire de l'Ukraine ». Un an après le début de l'invasion russe, le 24 février 2022, il vient d'achever un essai sur le sujet, The Russo-Ukrainian War, The Return of History, dont son éditeur français Gallimard publiera la traduction. Votre nouveau livre sur la guerre russo-ukrainienne est sous-titré Le retour de l'histoire. Qu'entendez-vous par là? En 1991, quand l'Union soviétique s'est effondrée, on craignait un conflit militaire majeur, une répétition de ce qui se passait en Yougoslavie. On a pourtant évité ce scénario. Ce qui se produit aujourd'hui, selon moi, est un retour de l'histoire. La Russie s'inscrit dans les pas d'autres empires qui se sont effondrés et ont tenté, au prix de guerre, de contrecarrer les proclamations d'indépendance de colonies ou de périphéries. Après la Seconde Guerre mondiale, le retrait de la France de ses anciennes possessions impériales, par exemple, a été tout sauf pacifique. Le monde entier a pleinement pris conscience du conflit avec l'invasion de février 2022. Auparavant, il y avait eu l'annexion de la Crimée et la guerre du Donbass en 2014, précédée de signes avant-coureurs. Quand situez-vous le début du conflit? On peut voir ces conflits comme deux guerres russo-ukrainiennes successives ou comme une seule, mais si on s'intéresse aux problèmes non résolus et aux tensions qui ont débouché sur cette phase militaire, le conflit a commencé très tôt après la chute de l'URSS. La question clé était de savoir si l'indépendance de l'Ukraine, et par extension celle des autres républiques soviétiques, s'effectuait sous conditions ou sans conditions. La Russie ne concédait à l'Ukraine qu'une souveraineté limitée dans le cadre d'une alliance post-impériale et d'une sphère d'influence russe. L'Ukraine, dès le début, partait du principe que l'indépendance signifiait l'indépendance. C'est une des questions qui se décident aujourd'hui sur les champs de bataille. Dans l'épilogue de votre livre « Aux portes de l'Europe », vous estimez que l'histoire a été mise à toutes les sauces dans ce conflit. Dans l'histoire moderne de l'Europe, il n'existe peut-être aucune guerre à ce point formulée et légitimée par l'histoire. Quelques jours avant l'agression de février 2022, Vladimir Poutine a prononcé un important discours, de facto une déclaration de guerre, dans lequel les observateurs ont vu une leçon d'histoire. Il y qualifiait, en gros, l'État ukrainien d'illégitime au motif que c'était une création de Lénine. Quelques mois plus tôt, il avait écrit, ou du moins publié, un long essai défendant l'unité historique des Russes et des Ukrainiens comme un seul et même peuple. Cette vision impérialiste des nations n'est pas nouvelle. Cette idée dominait dans l'Empire russe avant la Première Guerre mondiale. De même que certains Américains proclament « Make America Great Again », il existe un « Make Russia Great Again » qui voit dans le passé impérial un âge d'or. Le président russe se réfère notamment à l'héritage de la « Rus' de Kiev », un État qui a existé dans la région entre le 9e et 13e siècle. La majorité de l'Ukraine actuelle, la Biélorussie et une bonne partie de l'ouest de la Russie formaient en effet alors un empire dont Kiev était le cœur. Mais cela ne constitue pas un argument politique pour aujourd'hui. Imagine-t-on un président français qui affirmerait que Français et Italiens forment un seul peuple, au motif qu'ils appartenaient au même empire romain ou carolingien et que Paris a donc des droits historiques sur Rome. En 1991, toutes les régions ukrainiennes ont voté pour l'indépendance. Ce sentiment national généralisé existe-t-il encore? Nous ne pouvons pas vraiment connaître le sentiment de la Crimée ou d'autres territoires occupés par les Russes. Des référendums y ont eu lieu, mais sans présence d'observateurs indépendants. Ce qu'on peut dire, c'est que l'Ukraine affiche un niveau d'unité et d'engagement impressionnant, différent de celui de 1991. Ce n'est pas la même chose de voter pour l'indépendance et de risquer ou sacrifier votre vie pour ce principe. C'est un changement de société majeur. Les Ukrainiens ont surpris et continuent de surprendre le monde depuis février 2022. Washington et Moscou avaient des points de vue très différents sur la crise, mais tout le monde s'accordait sur le fait que Kiev n'allait pas tenir plus de 2 semaines. Si nous parlons encore de ce conflit au présent, c'est que les Ukrainiens sont toujours là. Leur résistance s'explique par leur volonté de combattre. En 2014, la société ukrainienne avait été prise par surprise. Certains de ces segments, à l'Est par exemple, avaient été sensibles aux promesses du soi-disant printemps russe. Cela n'a pas été le cas depuis février dernier. Dans des villes du sud et de l'est comme Kherson ou Berdyansk, en majorité russophones, on a vu des gens défiler derrière des drapeaux ukrainiens contre les tanks. Vous écoutez « Ukraine, le retour de l'histoire », un texte de Jean-Marie Potier paru en avril 2003 dans le numéro 357 du magazine « Science humaine ». Comment expliquer ce changement? Le projet national ukrainien a longtemps existé et survécu en opposition à l'État. Ce dernier, même dirigé par les gens du CRU, était toujours quelque chose d'étranger à la société. L'État était plutôt perçu comme une instance de contrôle et d'exploitation. Depuis 2014, la société ukrainienne a découvert que l'État fournit des services dont elle-même ne disposait pas, comme la sécurité et les forces armées. Si on regarde aujourd'hui comment le gouvernement et les municipalités gèrent la pression de la guerre et les attaques de missiles contre la population, l'Ukraine ressemble à tout, sauf à un État failli. C'est plutôt un État résilient, qui sert et protège ses citoyens. L'histoire constitue-t-elle aussi un élément important de sa mobilisation? La référence principale est la Seconde Guerre mondiale, marquée par l'occupation nazie de l'Ukraine entre 1941 et 1943 et la résistance nationaliste aux Soviétiques. La plupart des Ukrainiens ont entendu parler de ce conflit de la bouche de leurs grands-parents. Alors que la propagande russe tente de dépeindre les Ukrainiens comme des nazis ou des nationalistes enragés, la réponse ukrainienne consiste à faire des Russes les nouveaux nazis. Jusque-là confinée à l'ouest du pays, la popularité de Stephen Bandera, héros mythifié du nationalisme radical en lutte contre les Soviétiques, s'est de son côté étendue, même si cela déplaît à la partie la plus libérale de la société ukrainienne. L'Ukraine fait un usage sélectif du passé. Elle emprunte au slogan de résistance des années 1940-1950, tout en rejetant un nationalisme étroit. Elle a survécu au combat de 2014-2015. Elle est dirigée par un président d'origine juive, Volodymyr Zelensky, combat en parlant à la fois russe et ukrainien. Même si elle le voulait, elle ne pourrait pas s'unifier autour d'une religion ou d'une langue. Elle doit chercher d'autres symboles, ceux de la démocratie et du pluralisme. L'Ukraine serait donc une nation au sens de projet, non de communauté identitaire. J'ai beaucoup voyagé dans le monde. J'ai vécu 15 ans au Canada, où la langue est étroitement liée au territoire et à l'administration. Et nulle part, je n'ai vu la même situation qu'en Ukraine, avec ces deux langues utilisées simultanément. Parfois, à la télévision, vous voyez un interlocuteur parler en ukrainien et un autre en russe. En ce sens, l'Ukraine fournit à l'heure actuelle l'exemple canonique d'une nation civique. Au 19e siècle, elle considérait la langue parmi les fondations de son projet national, mais elle a toujours été multiethnique et multiculturelle. Durant la période soviétique, une bonne partie de ses habitants sont devenus russophones, ce qui fait que la carte de l'Ukraine indépendante ne recoupe pas la carte linguistique. Avec la guerre, cependant, nous voyons de plus en plus d'Ukrainiens, notamment les plus jeunes, se tourner vers l'ukrainien par rejet politique de tout ce qui est russe. Il est donc possible que le conflit constitue un virage vers une ukrainisation linguistique et culturelle. Une théorie encore citée aujourd'hui, développée par Samuel Huntington dans son célèbre essai « Le choc des civilisations » 1996, veut qu'elle soit menacée par une ligne de fracture entre catholicisme et orthodoxie. Ce raisonnement en termes de civilisation, de cartes avec des frontières très définies, est un non-sens total dans le cas ukrainien, car ces frontières n'existent pas. Il n'y a pas de frontières civilisationnelles et culturelles claires entre la langue russe et la langue ukrainienne, ni entre le christianisme occidental et oriental. L'Église, qui se place sous l'autorité du pape, utilise la liturgie et le rite orthodoxe, et d'autres églises coexistent dans cet espace. L'Ukraine faisait partie de la ceinture de la Bible de l'URSS, avec des groupes protestants très actifs. Beaucoup de zones de transition permettent au pays de continuer à exister. À la lecture de vos travaux, on comprend que l'histoire de l'Ukraine est très liée à celle de la Russie, mais aussi des États d'Europe centrale. Absolument. L'Occident considérait cette région au prisme de l'Empire russe. Ceux qui émigraient disaient arriver de Russie, même durant la guerre froide. De ce point de vue, il était compliqué pour l'Ukraine, comme pour tout État post-soviétique, de s'inscrire dans l'imaginaire mondial comme une entité souveraine. L'histoire de l'Ukraine est celle, classique, de l'émergence d'un État sur les ruines d'un empire. La différence est qu'elle a émergé sur les ruines de trois empires, pas d'un seul. Le deuxième était l'Empire ottoman, dont faisait partie la Crimée. Le troisième, l'Empire austro-hongrois. Avant la Première Guerre mondiale, la Galicie, par exemple, appartenait au même espace que Milan et Vienne, pas Saint-Pétersbourg ou Moscou. Durant l'entre-deux-guerres, un certain nombre d'États, comme la Pologne, la Tchécoslovaquie, la Roumanie ou la Hongrie, ont ensuite tenté d'absorber des territoires ukrainiens, mais ont échoué. Tout cela fait partie de l'ADN culturel des habitants de la région. Je vous rappelle que vous écoutez « Ukraine, le retour de l'histoire », un texte de Jean-Marie Potier paru en avril 2023 dans le numéro 357 du magazine « Sciences humaines ». Peut-on comparer le destin actuel de l'Ukraine à celui de ces pays d'Europe centrale? La chute des empires entraîne la création sur leurs ruines de nouveaux États très jeunes et militairement plutôt faibles. Ils se débattent avec leur identité, peinent à définir les rapports entre la nationalité dominante et les minorités. Ce vide du pouvoir attire les forces post-impériales, revanchardes après une défaite. Dans le cas de l'Europe centrale, l'Allemagne a tenté, après la Première Guerre mondiale, de s'approprier des territoires dominés culturellement et linguistiquement par les Allemands. Aujourd'hui, la Russie essaie de se remettre de son effondrement en annexant des territoires qu'elle considère comme russes ou en renforçant sa domination sur les nouveaux États de la région. L'Ukraine est officiellement candidate à l'entrée dans l'Union européenne, UE. De quand date son intérêt pour le projet européen? Dès les débuts du projet national ukrainien moderne, dans l'ère post-napoléonienne, a émergé l'idée que l'Ukraine ne pouvait pas s'affirmer en solitaire. Elle avait besoin d'un contrepoids à la Russie. Il y a d'abord eu l'idée d'une fédération slave qui lui aurait associé des États aujourd'hui membres de l'UE, comme la Pologne, la Tchécoslovaquie, les pays des Balkans. Au milieu du 19e siècle, lui a succédé l'intérêt pour une fédération européenne bien avant la création d'un espace économique, politique et militaire commun. Il existe donc une tradition intellectuelle selon laquelle l'Europe est une possible alternative à la Russie. L'Europe a toujours été là, pour le bon et le moins bon, des projets démocratiques de Giuseppe Mazzini au 19e siècle, au communisme national des années 1920, qui se référaient à la Commune de Paris, en passant par les idées fascistes arrivées d'Italie ou l'Allemagne. En 1975, après les accords d'Helsinki sur les droits humains en Europe, la première réaction des dissidents ukrainiens a été d'affirmer « Nous, Ukrainiens, vivons en Europe ». L'indépendance de l'Ukraine avait déstabilisé l'URSS. La guerre en Ukraine peut-elle fragiliser le régime russe? Je place cette guerre dans un long continuum d'événements qui ont commencé par la désintégration de l'Empire russe en 1917. Les bolcheviks ont réussi à maintenir en place la majorité de l'Empire à l'aide de l'idéologie communiste, mais cet empire s'est effondré en 1991 et cet effondrement se poursuit. Non seulement des frontières ont déjà bougé ou peuvent bouger, comme en Ukraine ou en Géorgie, mais celles de la Fédération russe, étant encore très multiethnique, peuvent aussi le faire, et pas seulement en s'étendant. Avec la guerre, la Tchétchénie a acquis une autonomie plus grande et on assiste à des tensions croissantes autour de la mobilisation militaire dans des zones en majorité non russes comme la Bouriatie ou la Yakoutie. En 1991, quand les Ukrainiens ont voté à plus de 90% pour l'indépendance, l'Union soviétique s'est effondrée en une semaine. Pourquoi? Parce que l'Ukraine était et reste le deuxième espace post-soviétique en termes de population et de potentiel économique. D'une certaine manière, le résultat de cette guerre ne décidera pas seulement le destin de l'Ukraine, mais aussi de la Russie, du Kazakhstan ou des pays baltes, déjà membres de l'Union européenne et de l'OTAN, mais que Moscou considère encore comme faisant partie de sa sphère d'influence. Si la Russie est défaite en Ukraine, on pourrait assister à une crise politique et certainement à une reconfiguration des relations de pouvoir dans l'espace post-soviétique. C'était « Ukraine, le retour de l'histoire », un texte de Jean-Marie Potier paru en avril 2023 dans le numéro 357 du magazine « Sciences humaines ».
Vous pouvez retrouver cette émission sur le site de Canal M à l'adresse canalm.visevoir.com. Cette émission est rendue possible grâce à Robert Chartier et Gilbert Lepage à la lecture, Francine Thériault à la recherche, Nicolas Svartman à la présentation et au montage.